Et donc Linus, c'est une revue italienne qui est fondée à Milan en 1965. Revue de bande dessinée, dont on dit souvent que c'est la première revue de bande dessinée d'auteur. Ce qu'il vaut bien voir, c'est que c'est une revue qui se situe peut-être à la convergence de deux phénomènes. D'une part, le développement de, appelons ça la BD Philly. On voit à cette époque-là l'émergence d'une génération de relativement jeunes types, donc qui sont nés pour la plupart dans les années 30, voire fin des années 20, qui ont biberonné aux bandes dessinées américaines qui ont été traduites un petit peu partout en Europe. C'est comme ça qu'on voit des gens, notamment des artistes, des écrivains, des intellectuels, je pense à Umberto Eco, à Alain René par exemple, ou François Karadec qui était membre du collège de pataphysique qui va réaliser un des tout premiers livres, des toutes premières anthologies sur la bande dessinée au tout début des années 60. Donc il y a ça, qui est teinté d'une certaine part de nostalgie, hein, mais en tout cas la volonté d'aller retrouver ces créations que cette génération-là avait connues durant l'enfance. D'autre part, ce qu'on peut voir aussi, donc on est au milieu des années 60, c'est tout le développement de ce qu'on appellera bientôt la contre-culture, c'est-à-dire d'une volonté de réinventer la société, qui passe notamment par une remise en cause des modèles politiques, des modèles sociaux, des modèles familiaux, des modèles sexuels, mais y compris aussi des modèles culturels. Donc on voit émerger aussi à ce moment-là un intérêt de plus en plus évident pour des créations qui étaient jusque-là jugées mineures. Je pense à la science-fiction, je pense au polar par exemple, mais aussi à la bande dessinée. Ces deux phénomènes-là sont d'ailleurs peut-être plus prégnants encore en Italie qu'ils ne l'ont été dans le reste de l'Europe. Ces premiers clubs qui s'intéressent à la bande dessinée, entre autres Umberto Eco va être très actif là-dedans. Pour ce qui est de la contre-culture, en Italie, on a souvent dit que mai 68 avait duré après les années 60, donc toute cette période va être très animée, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, là où, d'une certaine manière, en France, après 68, la société française retrouve assez vite ses petites habitudes. Là, les occupations d'auditoires dans les universités, les manifestations ouvrières vont continuer à perdurer pendant les années 70, avec y compris des choses assez violentes, puisque certains de ces contestataires des années 60 vont prendre les armes, notamment le mouvement des Brigades Rouges, etc. Alors, autre chose aussi qu'il faut voir, c'est qu'en 1965, donc quelques mois avant la publication de Linus, a lieu le festival de Brodighera, qui deviendra l'année suivante le festival de Lucca, qui est un des premiers festivals de bande dessinée, qui est un peu l'Angoulême italien, si on veut. Et pendant ce festival de Brodighera, on a comme ça des discussions assez animées et, de ce que j'ai pu en lire, je n'étais évidemment pas là pour le vérifier, d'assez haut vol, sur la bande dessinée. Et on voit comme ça notamment quelqu'un comme Umberto Eco, par exemple, prendre position pour défendre la nature artistique de ce mode d'expression qui, à l'époque, n'est pas culturellement très légitimé. Et donc, quelques mois après ce festival, naît donc Linus, avec une maquette très sobre, qui est tout à fait étonnante si on compare avec les revues qui l'ont précédé. En général, on a un sujet, un personnage qui se détache sur un fond uni, avec donc le lettrage en type Helvetica, comme ça, très, très sobre. Ce personnage, c'est souvent un personnage de Charles Schulz, hein, donc le créateur des Peanuts, hein, cette série où, avec le chien Snoopy, entre autres. Linus, d'ailleurs, est un personnage des Peanuts. Hein, c'est ce petit garçon qui tient perpétuellement en main une couverture comme, pour se défendre des angoisses de l'existence. Et cette revue va proposer à la fois des créations américaines de l'époque, entre autres les Peanuts. On va voir apparaître Pogo de Walt Kelly, quelqu'un comme Jules Pfeiffer, ce qu'on appelle à l'époque le comic strip intellectuel qu'on trouve dans la presse américaine, mais aussi toute une série de choses anciennes, hein, puisqu'on va republier là-dedans, enfin, republier ou parfois publier pour la première fois, des choses comme Popeye, hein, de Cigar, Crazy Cat de George Herriman, Dick Tracy de Chester Gould, etc. etc. Donc il y a une volonté véritablement, je parlais de bande dessinée d'auteur, c'est-à-dire de regarder le passé de la bande dessinée et là-dedans essayer d'en ressortir les créations les plus marquantes, tout en n'y mettant pas de nostalgie, hein, vraiment en essayant de voir mais qu'est-ce qui était marquant, quels sont les créateurs qui, depuis l'origine de la bande dessinée, ont véritablement fait œuvre d'auteur. Donc il y a ce regard, j'ai envie de dire rétrospectif, qui est intéressant. Hein, d'autant que la bande dessinée, c'est pas, on le dit encore aujourd'hui, a souvent péché par son incapacité à écrire sa propre histoire. Et d'autre part aussi, on voit émerger à la même époque de jeunes créateurs qui vont envisager la bande dessinée de manière tout à fait inédite. Parmi ces créations, dès le numéro 2, apparaît création qui s'appelle Neutron, en fait, qui est l'œuvre de Guido Crepax. Neutron est un critique d'art, mais qui a aussi des pouvoirs proches des super-héros. Enfin, ça, c'est curieux. Mais il a surtout une copine qui s'appelle Valentina, qui est photographe et qui va très vite devenir le personnage principal. Alors, on a souvent dit que Crepax était le maître de l'érotisme feutré ou ce genre de choses. C'est un petit peu court, évidemment. Certes, il y a une dimension érotique qui est très présente dans son œuvre, mais c'est d'abord véritablement quelqu'un qui a repensé de fond en comble les codes de la bande dessinée. C'est un metteur en page assez phénoménal, hein, très marqué par Winsor McCay, le créateur de Little Nemo. Donc c'est intéressant parce qu'on peut se dire, entre les rêves d'un petit garçon et les fantasmes érotiques, voire sadomasochistes d'une jeune femme, il n'y a pas de grand rapport. Ben, s'il y a un rapport, c'est que les deux créations se situent dans un univers qu'on peut les qualifier onirique, hein, d'une part, ce qui relève plutôt du rêve, de l'autre, du fantasme érotique. Mais le fait d'être comme ça dans un univers où les règles de la logique habituelle ne sont plus opérantes vont permettre d'abord à McKay et puis à Crepax dans les années 60 de se détacher des contraintes du réel en quelque sorte et faire ces mises en page tout à fait particulières, de pouvoir arriver à des choses tout à fait étonnantes, hein, où la logique habituelle n'a plus lieu, où les fantasmes sadomasochistes de Valentina se mêlent à une imagerie du Troisième Reich, par exemple. Il faut savoir que Crepax n'est certainement pas un sympathisant de ça, puisqu'il était profondément communiste. Alors Valentina est à la fois une femme libérée, il y a quelque chose qui relève d'une forme de féminisme. En même temps, elle est à la merci de toute une série de fantasmes de domination, et dans ces fantasmes de domination se mêlent effectivement imagerie sadomasochiste et imagerie militaire, avec une fragmentation des sujets, enfin vraiment quelque chose de très très particulier. Enfin vraiment une création tout à fait révolutionnaire et qui, je pense, aujourd'hui reste une bande dessinée tout à fait déconcertante, 40 ans plus tard. Il faut souligner l'importance d'un personnage qui est Oreste Del Buono, qui à partir de 72 devient rédacteur en chef de la revue, qui était déjà très actif dans celle-ci auparavant. Alors Del Buono n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui s'est intéressé à un tas d'expressions populaires, à la bande dessinée entre autres, au cinéma aussi, à la publicité par exemple, à toute l'imagerie publicitaire, mais qui est aussi le traducteur en italien par exemple de Marcel Proust, un intellectuel de très haut vol, qui a une vision très, très englobante de ce qui pourrait relever de l'art. Il arrive là dans le Linus avec cette ambition-là. Il y a, dès les premiers numéros, notamment une interview d'Umberto Eco qui est menée par Del Buono, où ils discutent et à un moment donné, je ne sais plus qui le dit, si c'est l'un ou l'autre, mais que finalement, les qualités littéraires de Schultz sont supérieures à celles de Salinger. Bon, alors, je ne sais pas si c'est ce genre de comparaison entre différentes formes d'expression a un sens, mais en tout cas, ça place d'emblée le fait que ces bandes dessinées qui sont publiées sont tout à fait capables de dialoguer avec la création littéraire dans ce qu'elle a de plus légitimé. Ça va être aussi une revue qui va avoir une dimension internationale très importante, puisque à côté des auteurs italiens comme Crepax, mais on va y retrouver Pratt, Altan par exemple, Battaglia, mais aussi des créateurs français, Bretéché, Forest notamment, des Argentins, Breccia, Munoz et Sampaio. Je dis ça, bande dessinée a souvent pêché par son incapacité à écrire sa propre histoire, elle pêche souvent aussi par son ethnocentrisme, hein, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance... Il suffit de regarder des revues comme Bodoy, Casemate ou DBD aujourd'hui, on voit que le point de vue est toujours biaisé parce qu'on voit tout d'un point de vue francophone ou en tout cas de ce qui est traduit en français. Alors que là, véritablement, avec Linus, il y a une volonté d'élargir les choses autant que possible, d'élargir le spectre et d'envisager la bande dessinée, à la fois en remontant le plus loin possible dans le temps, en élargissant les choses de manière la plus large possible à travers tous les territoires, et toujours avec une même exigence qualitative, hein, toujours une volonté d'avoir des gens qui font véritablement œuvre d'auteur, qui ont quelque chose à dire, qui ont un regard sur la société, qui ont un regard sur le monde qui est singulier, qui n'est pas réductible à autre chose, qui ont une esthétique particulière, hein, une manière d'envisager le langage qui leur est spécifique, etc. Del Buono va quitter Linus au début des années 80, notamment parce qu'il se rend compte que son éditeur à l'époque, Rizzoli, est membre de la fameuse loge P2, qui va avoir des liens assez... enfin, je ne sais pas si ça a grand-chose à voir avec ce qu'on dit ici. Enfin, avec la mafia et puis avec ce qu'on va appeler en Italie la stratégie de la tension. Et puis la revue va continuer en ne retrouvant peut-être pas cette énergie, mais Bon, on va quand même y retrouver toute une série d'autres auteurs assez étonnants. Même Trondheim sera publié là-dedans dans des années plus récentes. Maus d'Archipiegelman sera publié dans Linus dans les années 80, alors qu'aucun éditeur français n'en avait voulu, par exemple. Donc voilà, c'est une revue qui existe toujours et qui va avoir une influence assez considérable. Notamment en France, puisque Charlie Mensuel, qui apparaîtra 4 ans plus tard, en 69, est clairement basé sur le modèle de Linus, avec y compris la même maquette.